L'actualité des sciences sur France Inter.
Cette grande hutte est la demeure du chef incontesté du village, le redoutable Abra Raccourcix.
Mimine! Mais Mimine, c'est moi qui dois être sur ce bouclier. Je suis le chef après tout.
Je dois aller faire les courses. Je te rendrai le bouclier après. En attendant, mets un peu d'ordre dans la maison. Un sanglier refuserait d'y vivre. En route, vous autres!
Un extrait des 12 travaux d'Astérix. Alors la bande dessinée nous a mis dans la tête comme ça l'image d'un peuple un peu désorganisé, querelleur mais bien brave. Une image sympathique certes, mais sans doute assez éloignée de la réalité. Nous en parlons avec François Malrin et Mathieu Pou, tous deux archéologues et commissaires scientifiques de l'exposition consacrée aux Gaulois, actuellement présentée à la Cité des Sciences et de l'Industrie. D'ailleurs, Astérix figure en bonne place dans cette exposition. Ça commence, la première partie de l'exposition, c'est une galerie de portraits. Et on y voit notamment Astérix, n'est-ce pas François Malrin?
Alors effectivement, on y voit Astérix, et dans l'extrait qu'on vient d'avoir, on a déjà deux erreurs qu'on essaye de combattre au cours de cette exposition. D'une part, la hutte, on est très loin des huttes effectivement pour cette période. On a au contraire de très belles maisons qui sont élaborées avec des matériaux en matière périssable que sont le bois et l'argile, et donc il laisse peu de traces au sol, et également le sanglier dont on sait maintenant qu'il est très peu chassé par les Gaulois, peut-être à hauteur simplement de 2% dans la consommation quotidienne, donc c'est vraiment extrêmement peu.
Mmh. Mathieu Pou, tout est acheté d'un point de vue réalité, du point de vue de la réalité scientifique dans Astérix et Obélix, ou il y a 2-3 infos à prendre quand même?
Rien n'est acheté dans Astérix puisque
c'était... Je parlais vraiment d'un point de vue scientifique.
Du point de vue scientifique, c'est tout à fait intéressant du point de vue documentaire parce que Astérix regroupe, synthétise en gros tout ce qu'on pensait savoir des Gaulois jusqu'aux années 1950-1960 et tout ce dont on sait aujourd'hui que ça ne correspond pas à la réalité, mais c'est un magnifique concentré de fantasmes.
Alors je vous propose justement d'écouter l'extrait d'une interview de René Goscinny, le scénariste des fameuses aventures d'Astérix et Obélix.
Mais alors vous qui êtes le scénariste, l'auteur de l'histoire, quelles sont vos sources d'inspiration?
Eh bien, mes sources d'inspiration, de documentation plutôt, mes sources de documentation, eh bien, ce sont tous les livres que je peux trouver sur le sujet de la Gaule. Ça va des commentaires sur la guerre des Gaules de Jules César, jusqu'à ce que je peux trouver dans le Petit Larousse, ou dans n'importe quel livre. Enfin, j'ai des livres, pas n'importe lesquels, d'ailleurs, j'ai des livres de Carcopino, j'ai des livres de Hédoux, etc. Et je me documente le plus possible, et à partir du moment où je me suis documenté, j'oublie tout pour écrire mon histoire, puisque mon but, ce n'est pas d'instruire, mais d'amuser.
Alors Mathieu Pou, il s'était quand même documenté, quitte à après romancer tout ça, mais il s'était quand même documenté, mais justement, apparemment, sa documentation était faite des clichés, des nombreux clichés que l'on a sur les Gaulois.
Eh bien, elle est datée parce que cette documentation, elle repose exclusivement, quasi exclusivement, sur les sources littéraires anciennes, c'est-à-dire les textes grecs ou latins, qui nous donnent une vision complètement tronquée, arbitraire, partiale de ce monde gaulois. Mais de ce point de vue-là, Goscinny a parfaitement su synthétiser, retranscrire cette vision colonial, extérieur du monde gaulois, et comme il le dit, son but c'est d'amuser, non pas d'instruire, et il s'est bien gardé d'accorder crédit à ses récits. Peut-être que lui-même sentait que tout cela était un petit peu teinté de parti pris.
Alors en fait, ça fait 2000 ans que les Gaulois évoluent un petit peu au gré des circonstances, des situations, des régimes politiques, en tout cas la représentation que l'on se fait de ces Gaulois, et c'est pour ça que vous avez décidé de consacrer la première partie de l'exposition à cette galerie de portraits avec un peu la figure du Gaulois qui est évolue au fil du temps. On peut en donner quelques exemples, mais ça commence très tôt, ne serait-ce qu'avec Jules César, qui voyait ces Gaulois d'un certain œil.
Oh, bien avant, les Gaulois ne parlent pas d'eux-mêmes. On a très peu de représentations d'autoportraits de Gaulois. Ils sont documentés de l'extérieur, par les Grecs tout d'abord, qui les considèrent comme une masse de peuple qui habite au-delà de la Méditerranée, donc ce n'est pas très très précis. Et puis Jules César, les Romains, qui ont un rapport très ambigu à la guerre des Gaulois, un rapport un petit peu traumatique, puisque les Gaulois les ont visités dès le début du IVe siècle avant notre ère.
Oui, quand vous dites visiter, ils ne sont pas venus apporter
Ils sont des affrontements assez violents. Le siège de Rome, un épisode bien connu, avec l'épée de Brennus, Vae Victis, etc. Ce sont des épisodes violents. Et puis, un rapport un petit peu à la fois de mitoyenneté, de voisinage avec les Gaulois, qui sont pratiquement des cousins des Romains du point de vue linguistique. Des épisodes guerriers. Et puis arrive un moment où le choc final est absolument inévitable, le 1er siècle avant notre ère. Et là, c'est Jules César qui, le premier, va nous en parler un petit peu en détail de ces Gaulois.
Alors, François Malrin, comment parle-t-il de ces Gaulois?
Jules César en parle surtout, en fait, dans la guerre des Gaules, il en parle pour justifier sa propre guerre, qui est avant tout une guerre économique. La Gaule, au moment où se déroule cette conquête, est déjà très riche, extrêmement riche de par ses productions agricoles, mais également artisanales. Mais simplement, pour revenir au tout départ de cet expo, cette plongée dans notre imaginaire collectif, dans notre passé, ces images qui nous effleurent les uns les autres, alors peut-être pas tout le monde, mais une partie de la population, tout au moins Astérix, et je pense dans la tête d'à peu près chacun de nos contemporains, ça permet d'un petit peu de faire le point sur ces images passées et pour mieux mettre en valeur l'actualité de la recherche archéologique.
Mmh. Alors on va y venir, hein, à la recherche archéologique, mais n'allons pas trop vite. Quand même, prenons le temps de voir toutes ces erreurs, parce qu'elles sont vraiment révélatrices de la façon dont on s'est complètement planté sur ce peuple dont, vous le disiez, Mathieu Pou, finalement, on ne sait pas grand-chose, parce qu'il y a peu d'écrits. Ça veut dire qu'ils n'écrivaient pas du tout, les Gaulois ?
Les Gaulois n'écrivaient pas. C'est une culture qui est essentiellement orale. Ils écrivaient pour des pratiques courantes d'état civil, par exemple, ou de comptes commerciaux, mais ils n'écrivaient pas, ils n'ont pas livré de littérature comme d'autres civilisations antiques. Et c'est tout le problème. Ils ont livré des images qui sont assez peu explicites, qu'il faut savoir lire, savoir interpréter. Mais de ce point de vue-là, l'héritage est beaucoup moins évident, beaucoup moins lisible que pour d'autres peuples. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'ils sont documentés de l'extérieur. C'est pour ça qu'on appelle cette période la proto-histoire, c'est-à-dire des peuples qui n'écrivent pas encore leur histoire, mais dont l'histoire est documenté par d'autres. Et c'est tout le problème. C'est qu'il a fallu faire un travail de tri entre le vrai et le faux dans ce que nous disent les textes grecs et latins.
Mmh. Et alors, quand Jules César, finalement, c'est lui qui nomme ce peuple, les Gaulois, finalement, la Gaule en tant que telle est une entité qui n'a pas vraiment de réalité physique sur le terrain. Les frontières de ce pays n'existent pas vraiment.
Alors, ce n'est pas un pays. En fait, c'est une mosaïque d'une soixantaine de peuples, non pas de tribus, comme on le dit souvent, mais de peuples, de véritables cités-états, mais qui couvrent un immense territoire qui est même plus grand que celui de la France actuelle. Mais paradoxalement, César décrit ces Gaulois de manière assez objective. Il leur assigne une frontière qui est un peu imaginaire pour des raisons de propagande, mais il les décrit de manière assez objective. Et c'est pratiquement l'une des meilleures sources dont on dispose pour comprendre la société gauloise au 1er siècle avant notre ère. Ce qui est paradoxal, puisqu'il les a combattus. Mais on sent quand même un certain respect de l'adversaire qui fait qu'il nous dit pas mal de choses, finalement.
Il y aurait quand même, en tout cas, un petit contresens que vous attribuez à un descriptif de Jules César qui parle de Gaules hirsutes, de Gaules chevelus. On en a donc déduit que les Gaulois avaient des tignasses pas croyables et des moustaches, alors que ça, selon vous, il y a contresens, c'est une erreur.
Oui, alors la Gaule chevelue, elle a un double sens. C'est-à-dire qu'on a vite pensé à des Gaulois qui ont plus l'allure de vikings hirsutes que de personnages recommandables. Mais on pense que ce chevelu désigne plutôt la terre gauloise, c'est-à-dire qui est hérissée de forêts, couverte de forêts. Les Gaulois portaient certes la moustache et la barbe, ça les textes nous le confirment, et même certaines images nous le confirment, mais une moustache peut être bien taillée. Et c'est ce que nous montrent les images, c'est qu'il s'agit de coiffure et d'un port de la barbe et de la moustache qui est extrêmement recherché, soigné en tout cas chez les aristocrates.
Donc ce serait plutôt la...
Oui. Mais c'est aussi la vision d'un méridional qui arrive en Gaule, en fait, où la Gaule est plutôt couverte, le Rome est plutôt couverte de cyprès, de végétation méditerranéenne, tandis que le nord de la France est couvert de... Pas couverte, mais il reste des lambeaux de forêt qui sont d'ailleurs déjà gérés par l'homme à cette époque-là, et qui sont essentiellement du chêne et qui paraissent beaucoup plus touffus que la végétation de l'Italie.
Donc ça concernait surtout la végétation, hein, selon vous, ce qualificatif de chevelu. Et puis alors, bien après, hein, au XIXe siècle, le mythe des Gaulois a été récupéré par d'autres. On peut en donner quelques exemples. Je ne sais pas lequel des deux... allez-y, alors Mathieu Pou.
Il a été non pas récupéré, il a été forgé au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pratiquement pas aux Gaulois jusque-là. Ce sont les Francs qui sont constitutifs des Celtes aux Gaulois au XIXe siècle. Et on va les utiliser à toutes les sauces. C'est-à-dire qu'ils vont être utilisés à des fins de propagande nationaliste, par Napoléon III notamment, et puis au cours des deux guerres mondiales du XXe siècle. Ils vont être utilisés comme symbole d'une civilisation proche de la nature, ça c'est le courant néo-druidique qui sévit encore aujourd'hui. On l'utilise comme symbole de résistance soit à l'envahisseur allemand, puis à l'envahisseur anglo-saxon, ça c'est le gaulois nationaliste vichiste, et puis aujourd'hui encore c'est un petit peu la tradition gauloise qui résiste contre les produits de la mondialisation et les assauts de la mondialisation. Donc romanciers gaulois, ils sont totalement interchangeables. C'est un concept, entre guillemets, absolument inusable.
Donc on les a complètement instrumentalisés, hein, ces Gaulois, François Malraux.
Oui, on les instrumentalise au gré du temps, on les façonne, soit on les rejette dans les oublis parce qu'on n'en veut plus, sous les rois de France, on n'en veut surtout pas, donc on serait quand même plutôt de Rome. Mais à une époque où on veut lutter contre les Allemands et compagnie, on s'en sert comme héros pour exalter le sentiment patriotique et national. Donc c'est vraiment une modulation au cours du temps. Mais pendant toutes ces périodes, en fait, on laisse pas la place aux Gaulois. On n'a aucune preuve de... On n'a pas assez de fouilles encore. Les fouilles commencent avec Napoléon III réellement, qui recherche les sites de la guerre des Gaules sur le territoire de la Gaule, qui engage sur ses deniers personnels énormément de fouilles pour retrouver ces sites. Et ce n'est qu'avec notre époque, ou ces 30 dernières années, en fait, que cette image va pouvoir commencer à être modelée différemment.
Alors, elle va évoluer, cette image, notamment au cours des 30 dernières années, avec une archéologie qui se pratique différemment, et notamment l'archéologie préventive que vous pratiquez à l'INRAP.
Tout à fait. En fait, si vous voulez, depuis une trentaine d'années, donc, se développe l'archéologie dite préventive, qui est une des composantes de l'archéologie. Moi, j'aime mieux utiliser le mot d'archéologie au sens large pour cette science. Et en fait, par rapport à l'aménagement du territoire, on a des travaux énormes qui chaque année détruisent des milliers d'hectares en France. Et ces travaux font l'objet de suivi. Chacun a, je pense, vu près de chez lui maintenant des petites tranchées qui sont régulièrement faites dans le paysage. Et ces tranchées, on les réalise de façon à voir s'il y a des sites archéologiques juste en dessous des futurs aménagements. Alors généralement, c'est les sites de la période gauloise qui sont plus représentés. On a environ 25 sur les tracés linéaires, par exemple les autoroutes, les TGV ou même les grandes zacs. On a environ 25% des sites qui concernent la période gauloise. Donc en une vingtaine d'années, on a environ 1000 sites de fouillés. Ce qui nous permet de rénover totalement ces idées reçues depuis plusieurs siècles maintenant.
Et alors aujourd'hui, les scientifiques savent faire, on pourrait dire, parler les paysages, notamment avec des vues aériennes assez étonnantes où l'on voit se dessiner les plans de maisons, voire parfois de villes.
Alors la photographie aérienne a eu cet intérêt dans les années 70. On est déjà très, très en amont. Maintenant, les années 70, donc avec des pionniers de l'archéologie comme Roger Agache sur les terres de la Picardie, où il dévoile un paysage avec des grands enclos qui sont rapidement interprétés comme étant les édificias de la guerre des Gaules, décrits par César. Mais là où l'archéologie actuelle dépasse ces concepts ou ces écrits du passé, c'est qu'on a on peut les avoir au sol, c'est-à-dire qu'on les décape sur de vastes surfaces. Et cette archéologie, elle permet de découvrir les sites dans leur intégralité et donc de réfléchir totalement différemment par rapport à des simples impressions dans le paysage.
Mais alors qu'on comprenne bien, Mathieu Pou, quand on parle du paysage, quand on dit qu'avec une vue aérienne, on arrive à voir se dessiner les plans de ces fermes ou de ces villes, comment se fait-il que 2000 ans après, par avion, on voit encore quelque chose, alors que justement l'habitation des Gaulois était en bois, donc finalement tout ça est vite pourri, a vite disparu?
Alors, c'est bien simple. D'une part, la photographie aérienne, elle montre que ces Gaulois sont partout. On en a pratiquement tous les 500 mètres, tous les kilomètres, en tout cas dans les régions les plus peuplées de France actuellement, les grandes plaines.
Donc, ce qui va déjà, pardon, je vous interromps, à l'encontre de l'idée selon laquelle la Gaule était couverte de forêts. On se rend compte que le territoire était largement investi. Hein.
Tout à fait, ce sont des fermes qui exploitent le paysage. Donc de la forêt, il n'y en a plus beaucoup, elles reculent énormément. Ces fermes sont entourées de pâturages, de cultures. Donc ça, c'est un premier point. Et d'autre part, ces vestiges, ils sont très difficiles à voir au sol, parce que précisément, ils ne sont pas spectaculaires. Il n'y a pas de construction en pierre, en maçonnerie, comme pour l'époque romaine, qui subsiste parfois à la surface. Là, il faut prendre de la hauteur, justement, pour en voir la trace, parce que ces bâtiments sont immenses, ils sont entourés d'enclos tout à fait vastes, mais qui laissent très peu de trace visible quand on se situe au niveau du sol, alors que dès lors qu'on prend un petit peu de hauteur par avion, eh bien, on en voit la trace fossile en quelque sorte, là où la végétation trahit l'existence de zones humides, de poches qui permettent aux plantes de pousser un petit peu mieux qu'ailleurs.
Parce que le bois des constructions, en pourrissant, a fait une sorte d'humus qui fait qu'à l'endroit où les palissades étaient plantées, pousse une végétation plus dense. Donc on voit en fait se révéler comme ça les plans des maisons uniquement par la végétation. C'est assez incroyable, hein, parce que 2000 ans après, on a vraiment l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, ce qu'on voit.
Alors, ce n'est pas seulement les plans des habitations. En fait, ce qu'on voit le plus par avion, ce sont les grands enclos qui enserrent les sites. Mmh. Alors, c'est une des caractéristiques de l'époque gauloise, c'est de systématiquement creuser un fossé pour délimiter sa propriété. Donc, il y a une vraie graduation. En fait, plus le fossé est fin et petit et peu profond, moins l'habitat est hiérarchiquement élevé. Et plus il est large et plus il est profond, et plus l'habitat est très hiérarchiquement élevé. Donc on a de véritables aristocrates dans ces fermes. Et donc, c'est les fossés qui forment ces établissements. Et les habitants rejettent systématiquement dans ces fossés. Donc c'est l'accumulation d'humus, en fait, qui permet à la végétation de ressortir différemment par avion.
Alors, Fabien nous demande par mail, que sait-on, là vous nous parlez des fermes, mais que sait-on des villes gauloises? Les Gaulois étaient-ils en avance sur les autres peuples dans certains domaines technologiques? Alors, pour les domaines technologiques, on aura l'occasion d'en reparler hein, oui. Un peu plus loin dans l'émission, mais déjà sur les villes gauloises, qui avaient un nom hein, précis.
Les Oppida, ça c'est la désignation dans la guerre des Gaules également. Ces villes, elles sont très très nombreuses en Gaule, elles constituent encore des références dans les noms des appellations, les Parisis, Paris, Reims, les Rèmes, Soissonne et Soissons, etc. Donc c'est aussi cette mémoire du patrimoine laissé par les Gaulois. Elles sont de très grandes dimensions, elles peuvent atteindre plusieurs centaines d'hectares. Et elles sont manifestement mises en œuvre par des architectes parce qu'il faut s'adapter au relief. D'une part pour installer les remparts qui enferment certaines de ces villes et qui peuvent se développer sur plusieurs kilomètres de long et plusieurs mètres de haut.
Donc Mathieu Poux, les Gaulois, contrairement à ce qui a été beaucoup dit.
Non, pas du tout. Alors là, il serait tout à fait exagéré de dire que les Gaulois étaient en avance sur leur temps du point de vue des constructions. En fait, ils adoptent des formes d'architecture qui sont tout à fait communes dans toute l'Antiquité. Depuis la plus haute Antiquité, on construit en terre et en bois dans tout le monde antique, chez les Grecs comme chez les Romains et chez les Gaulois aussi. Simplement, ils ne construisent pas à l'aide de mortiers, c'est-à-dire de maçonnerie liée aux mortiers. Ça, ce sont les Romains qui vont introduire ça en Gaule. C'est un vrai marqueur de l'arrivée des Romains en Gaule. Mais ils ne construisent pas moins bien. C'est-à-dire que même en Gaule romaine, on se rend compte qu'une majorité des bâtiments restent construites selon des techniques traditionnelles de terre et de bois. Et d'ailleurs, dans nos centres-villes actuels, il en subsiste beaucoup de traces à Dijon, à Strasbourg ou ailleurs. Et donc, ce sont des constructions tout à fait étonnantes qui sont planifiées par des architectes. Alors, le mot est sans doute un peu fort, en tout cas des spécialistes qui planifient au sol les bâtiments selon des règles tout à fait compliquées dont la géométrie n'a été comprise que récemment. Et donc, il ne s'agit absolument pas de huttes construites au hasard dans la nature.
Alors, on va continuer de décaper le mythe gaulois, quoi qu'on peut aussi tordre le cou aux idées reçues, pourquoi pas les décapiter dans la tête au carré.
Bonjour. C'est par où le village des Gaulois?
Alors le mieux d'ici. Vous suivez les baffes et normalement ils sont au boulot. Je vous accompagne pas, vous m'en voulez pas. Je vais rester ici et réfléchir un peu.
Alésia, 52 avant notre ère. La Gaule est annexée. Mais qui sont ces prétendus barbares, vaincus par Rome, leur donner la stratège? Conquête. Richesse. Sang. Raffinement. La Gaule aura été le lieu d'une histoire extraordinaire. Incroyables aménageurs du territoire. Politiques avisés. Guerriers craints et respectés. Les Gaulois s'effacent discrètement, emportant avec eux leur univers technique et culturel.
Ambiance dans la tête au carré. Ça, c'est un extrait de l'un des films qui est diffusé dans l'exposition Gaulois, une expo renversante actuellement présentée à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Un film, justement, qui nous montre un petit peu ce qu'étaient les Gaulois. Alors, il y a des questions qui arrivent sur le site internet. Quelle est la différence entre les Celtes et les Gaulois? Mathieu Poux, vous m'avez dit que c'est une question compliquée.
Oui, parce que pour les auteurs antiques, il n'y a pas de différence. Ils mélangent allègrement exactement les termes, Keltoï, Galatoï, Kelti, enfin peu importe, je ne rentre pas dans les détails. Aujourd'hui, il y a un consensus qui fait des Celtes un ensemble de populations, et je dis bien un ensemble de populations au pluriel, qui occupent une large partie de l'Europe du Nord actuelle, grosso modo des îles britanniques jusqu'au centre de l'Europe, avec des ramifications plus lointaines en Italie, même en Turquie actuelle, en Asie mineure. Et les Gaulois, eux, ne représenteraient qu'une petite fraction de cet ensemble de populations celtes qui occupaient précisément le territoire de la France actuelle, et puis ses marges, le Benelux, la Suisse, etc. Mais c'est compliqué puisque César lui distingue des Gaulois celtes au centre de la France, qui l'opposent à des Gaulois aquitains ou des Gaulois belges qui occupent le nord de la France et la Belgique. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Et là, actuellement, tous les chercheurs ne sont pas unanimes sur cette question-là, ces questions-là. Mais disons, le consensus veut que les Gaulois soient un sous-ensemble du peuple celte.
Alors, que mangeaient ces Gaulois exactement sur ce sujet? Il y a des clichés qui résistent encore et toujours avec la complicité d'Obélix.
Elles sont petites, les gosses de sanglier.
C'est du mouton. Le sanglier, c'est bon pour les sauvages. Tu veux que je te fasse quelques poulets?
Oui.
Combien?
Une petite vingtaine, parce que je suis au régime en ce moment.
Ah voilà, un Obélix au régime. Alors, de quoi se nourrissait-il? On en a un petit peu parlé, mais est-ce qu'il y a vraiment eu des sangliers au menu des Gaulois?
Alors, il y en a effectivement eu, mais dans des proportions vraiment infimes. En fait, manifestement, la chasse est réservée à une élite. Donc, on a très peu de restes de gibier chassé dans les rejets domestiques, dans la consommation des animaux. Depuis maintenant une vingtaine d'années, on travaille avec des archéozoologues qui sont des spécialistes des études de faune et qui nous montrent qu'en fait, les animaux les plus consommés sont la triade habituelle, celle qui existe encore actuellement, qui est le bœuf, le porc et le mouton.
Donc des animaux finalement très proches de ceux que nous connaissons aujourd'hui.
Alors des animaux très proches de ceux que nous connaissons aujourd'hui, mais beaucoup beaucoup plus petits. En fait, ils font 1m15, 1m20 au garrot, donc ils sont vraiment tout petits. Et ça représente environ un tiers des productions de viande. Un animal, c'est un tiers d'un animal actuel. Donc c'est vraiment une infime proportion.
Mathieu Pou,
si je puis permettre d'ajouter quelque chose sur cette histoire du sanglier qui est emblématique de ce monde sauvage dans lequel vivent les Gaulois. En fait, c'est un point aussi révélateur de l'incompréhension de ce monde pour les auteurs grecs et anciens, puisque c'est sans doute un malentendu. Un auteur grec, Diodore, qui puise dans une source plus ancienne, nous dit que les Gaulois servaient à table du sanglier. Alors d'une part, les invités de marque. Et puis, il ne parle pas vraiment de sanglier, mais de porc sauvage. Et en fait, il est probable que les auteurs aient confondu des porcs domestiques élevés dans les fermes, dans les cours de ferme, avec des porcs sauvages, à mesure où le porc gaulois, le cochon gaulois, est beaucoup plus poilu. Il ressemble beaucoup plus à nos petits cochons corses actuels qu'à des cochons de ferme. Donc, il est tout à fait possible que ce sanglier n'ait jamais existé ailleurs que dans la tête des auteurs grecs.
Ah oui. Et alors, qu'est-ce qu'il cultivait?
Alors là, on a depuis quelques années, on a le développement de sciences que sont la paléontologie, la carpologie.
Alors vous les dites très vite, que tout le monde n'a pas forcément en tête. Prenez le temps.
C'est une paléontologie. Alors la paléontologie, c'est l'étude des pollens et des spores, donc qui permet d'avoir une idée du paysage environnant. Chaque plante, chaque arbre émet des pollens et ça nous permet de dessiner, d'esquisser le paysage dans lequel les Gaulois vivaient.
Mais ce qui est assez fabuleux, ça veut dire que ces graines, ces pollens ont quand même traversé le temps. Ça fait 2000 ans que tout ça est enfoui dans la terre et ça a tenu le coup.
Alors ça tient le coup. Généralement, sur chacun des sites, on fait des prélèvements qui partent après dans des laboratoires. Et c'est dans ces laboratoires que sont décomptés les pollens pour voir le paysage environnant ces sites.
Mais les graines, il n'est plus
alors,
question
les graines,
de les faire germer
alors,
quand même.
Les graines, elles ne germent plus. C'est beaucoup trop long comme temps. Mais par contre, on les retrouve aussi sous forme de graines quand elles sont carbonisées, par exemple, ou quand elles sont imbibées, c'est-à-dire qu'elles sont conservées dans l'eau. À partir de ces graines, on a pu voir les productions réalisées par les Gaulois, donc de vastes champs autour des fermes, mais avec des connaissances agronomiques assez poussées, parce qu'au fur et à mesure des études, on se rend compte que, par exemple, à l'ouest, ils élèvent principalement des légumineuses, donc des pois, févroles, lentilles, tandis que dans les grandes plaines du Nord, on est plutôt dans les blés, l'orge vêtue, etc., qui est plutôt de l'ordre de la culture extensive. Donc avec manifestement suffisamment de moyens pour faire une archéologie dite des cultures déjà spéculatives en fait. Et pour les conserver sur chacun des sites, généralement on a des structures de stockage que sont des silos. Donc on verse l'intégralité dans le sol. C'est des structures en forme de cloche, en fait, et qu'on rebouche après avec un bouchon d'argile ou des petits greniers surélevés qui permettent de protéger les denrées de l'humidité et aussi des rongeurs qui avaient aussi faim à cette époque que maintenant.
Alors apparemment, ils savent cultiver. C'est une question que je me suis posée en visitant l'exposition, puisqu'ils commercent avec donc les Grecs, les Romains, et notamment, ils leur achètent beaucoup de vin. Apparemment, ils sont très amateurs de vin, oui. Et ils aiment le vin fort, puisque autant les Grecs et les Romains diluent le vin alors que le boivent pur. Mais s'ils aiment tant que ça le vin, pourquoi ils cultivent pas la vigne eux-mêmes, qu'ils savent cultiver, ils n'ont rien à apprendre des Romains de ce côté-là.
Mathieu Pou. Ça, c'est une question qui est également discutée. Certains pensent qu'ils l'ont cultivé plus tôt, mais certainement pas à des fins de vinification. Ils le consommaient comme un fruit parmi d'autres. Mais il est vrai que la viticulture, c'est une technique totalement romaine qui apparaît à partir de la conquête romaine et qui n'est pas connue antérieurement. C'est une technologie qui est assez compliquée, assez poussée, qui est développée essentiellement pour le sud, pour les rives de la Méditerranée, donc elle a dû être acclimatée plus au nord, et c'est un processus qui aura pris des siècles, donc c'est tout à fait logique que les Gaulois ne l'aient pas fait plus tôt. Les Gaulois du sud l'ont certainement fait beaucoup plus tôt que les Gaulois du nord.
Donc ils ne savaient pas le faire
A priori, non. On trouve des pépins de raisin, mais qui, c'est sans doute plutôt du raisin sauvage acclimaté pour en faire des fruits de table, hein, des fruits de consommation. Ça intervenait dans des préparations culinaires aussi. Hein. Mais du vin, en tout cas, à l'heure actuelle, on n'a pas la trace en Gaule avant la conquête, du vin produit localement.
Mais pourtant, il y a des échanges entre ces populations. Alors, ils ne peuvent pas comme ça se transmettre des savoir-faire. Chacun garde ses secrets.
Alors, ça viendra. En fait, ce qui se passe dans toutes les civilisations, en Égypte, en Grèce ou à Rome, c'est qu'il y a toujours un temps d'acclimatation où on apporte le vin avant de se mettre à le produire soi-même. Et ça caractérise vraiment tout le parcours du vin en Méditerranée. Et les Gaulois ne font pas exception. C'est-à-dire qu'ils commenceront à l'importer au VIe siècle avant notre ère. Ils l'importeront très massivement dans le siècle qui va précéder la conquête romaine. Et puis juste après, quelques décennies plus tard, ils vont se mettre à le produire quand ils seront devenus gallo-romains.
Alors, un domaine sur lequel ils n'ont rien à envier aux Romains ou aux Grecs, c'est le travail du métal. Là-dessus, ils savent faire énormément de choses. Les fouilles en attestent, hein. Ouais, François Marin.
Alors, très largement, les fouilles en attestent. Alors, c'est d'ailleurs l'un des ateliers qui est disposé dans l'exposition. En fait, cette exposition, elle ouvre sur un très grand plateau sur lequel on a une fouille décor qui a été réalisée par un artiste, un scénariste qui est Pascal Payeur. Et dans ce fouille décor, on a 7 ateliers. Et dans chacun de ces ateliers, en fait, on explore une science, ce qui permet autant d'apporter les nouveaux éléments de la connaissance de manière très pédagogique. C'est vraiment réalisé pour les familles et les enfants. Et réciproquement, mais également aussi de permettre à la population de découvrir les différentes facettes du métier d'archéologue, donc les différentes spécialisations. Et dans un de ces ateliers, justement, on en a un qui concerne le métal, qui est l'un des points clés de ces sociétés. En fait, les trois quarts des outils qui ont été inventés à cette époque ont persisté quasiment jusque la révolution industrielle. On leur doit l'invention de la faux, par exemple, qui est un outil typiquement gaulois, de la charrue, des socs d'arrière, etc. Donc vraiment déjà une connaissance des sols aussi suffisante pour développer un outillage adapté. Mais pour fabriquer ces outils, il y a d'abord l'extraction des matériaux, des minerais. Et ces minerais sont extrêmement importants en Gaule. Et donc on a des mines pour tout. On a des mines pour l'or, l'argent, le cuivre, etc.
Alors vous parlez de l'or, mais les serpes des druides étaient-elles vraiment en or, comme on nous l'a si souvent dit, Mathieu Pou?
Autre malentendu sans doute, puisque de serpent en or, on n'a jamais retrouvé la trace en Gaule. C'est une description qui est très tardive, hein, qui date d'époque romaine, qui nous dit que les druides montaient dans les arbres pour cueillir le gui avec une serpe en or. Et d'ailleurs, Goscinny n'a pas raté de mettre en image ce cliché. En fait, on sait aujourd'hui que le bronze dans l'Antiquité, d'ailleurs c'est une propriété du bronze aujourd'hui encore, brille comme l'or. Et là encore, on a sans doute confondu un objet tout à fait banal et quotidien avec quelque chose d'exceptionnel, puisque en revanche, des fossiles, des serpettes en bronze, il arrive qu'on en retrouve dans les fouilles.
Alors puisqu'on évoquait les druides, hein. Olivier sur internet franceinter.fr nous demande qu'en est-il des druides et sociétés druidiques. C'est vrai qu'il y a toute une mythologie autour de ces druides.
Mythologie qui est sans doute très exagérée dans la mesure où ces druides, ce qu'on en connaît, c'est principalement les textes, là encore, et le texte de César qui nous dit qu'il ne s'agit pas uniquement de prêtres mais également de savants. druide étymologiquement, ça veut dire très savant. Et aucun mystère là-dedans. Toutes les sociétés possèdent leurs connaisseurs, leurs sachants, leurs savants. Et les druides ne font pas exception. Ils interviennent dans la vie religieuse, mais aussi juridique, politique, etc. Ils servent de conseil à différentes occasions. Parfois, ils font même la guerre. Donc, ils n'ont rien de mystérieux, ces druides. On sait aujourd'hui que la religion gauloise, elle ne s'exerce pas au fond des forêts, à proximité de sources, à l'ombre des arbres, mais dans des grands sanctuaires, et des sanctuaires qui sont régis, animés par des prêtres spécialisés. Ils ont chacun leur spécialisation. Il y a des prêtres qui sacrifient, des prêtres qui lisent dans l'avenir, et puis des connaisseurs de la religion, de la chose religieuse, qu'on consulte à différentes occasions. Donc c'est une société tout à fait complexe, et là encore, il n'y a pas de mystère gaulois tel qu'on a cru le percevoir dans ces textes très très rares, mais une société qui est mal connue, tout simplement, dont on sait aujourd'hui qu'elle est très compliquée.
Quand vous parlez de sanctuaire, il faut voir ça comme des sortes de temples. À quoi ça ressemble, un sanctuaire gaulois ?
Il faut voir ça exactement comme un sanctuaire grec ou romain, sauf que tout est bâti en bois et en terre. Donc il était très difficile de les voir jusqu'à une découverte tout à fait majeure qui a été réalisée par Jean-Louis Bruneau dans les années 1970, qui est celle de Gournay-sur-Aronde en Picardie. Et là, on a été pour la première fois confronté à ce que peut être un sanctuaire gaulois. Et c'était presque une déception parce qu'il ressemble tout à fait au sanctuaire du monde méditerranéen. On y trouve la même chose qu'ailleurs, donc non pas du gui et des serpes d'or, pas de restes de sacrifice humain non plus, mais plutôt des vestiges de sacrifice animal, des bœufs, des porcs, des moutons qui sont sacrifiés comme partout ailleurs dans le monde antique.
Voilà, ce n'était pas un peuple barbare et sanguinaire comme on nous l'a souvent dit.
Simplement pour ajouter, c'est l'un des attraits aussi de l'exposition. On montre une maquette très animée avec des petites projections de films qui est la dernière cérémonie du sanctuaire de Tintignac, où l'on voit en fait le sacrifice des animaux, le sacrifice des armes, avec la présentation des fabuleux objets de ce trésor, entre guillemets, où on montre le carnix, qui est une trompette de guerre, mais aussi des casques, dont un casque à tête d'oiseau qui est absolument fabuleux.
Solène vous demande sur Internet, les Gaulois étaient-ils monogames et quelle était la place de la femme ? Mathieu Pou.
Alors, s'il y a bien un domaine où l'on ne sait pas grand-chose, c'est le domaine de la sexualité des Gaulois, leur vie conjugale et la femme gauloise en particulier. Alors, une tentative tout de même, une exposition qui avait été présentée par Bibrac, le centre archéologique du Mont-Beuvray, dans la Nièvre, il y a quelques années. En fait, la femme gauloise n'apparaît pas du tout dans les textes de César, par exemple. Donc, on n'a pas connaissance de femmes qui auraient exercé des fonctions importantes à l'époque de Jules César. Ça ne veut pas dire qu'elles n'en ont pas exercé. Plutôt, la fameuse princesse de Vix, inhumée en Bourgogne avec cette immense vase en bronze qui fait plus de 1 mètre de haut, une tombe richissime. On parle de la princesse ou de la reine de Vix, peut-être une reine d'un statut équivalent à celui d'Hatshepsut ou de Catherine de Médicis. Bon, c'est un point, mais il semblerait pas. Le peu que nous dit César de la femme gauloise, qu'elle jouissait de certains droits. Ça, on n'est pas du tout dans une société complètement phallocratique. Certains droits au niveau de la propriété privée, par exemple. Mais on en sait très peu de choses, malheureusement. Et c'est là que l'archéologie nous permettra, on l'espère en tout cas, dans les années à venir, de progresser sur une question qui n'est pas évidente à cerner au travers des textes.
Mmh. Mais donc, finalement, on se rend quand même compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous a racontées qui sont fausses. Notamment, alors il y a des petits détails, hein, par exemple ce casque avec les ailes sur le côté. On se rend compte qu'il n'a jamais existé.
Gros malentendu, des casques avec des ailes, c'est dans le monde romain qu'on les trouve. Les légionnaires romains qui les portaient au 1er et 2e siècle avant notre ère, et César nous le confirme d'ailleurs, c'est sans doute un malentendu puisqu'on connaît les Romains, effectivement, les auteurs nous parlent de casques surmontés d'oiseaux et non pas d'ailes d'oiseaux, et l'archéologie a mis en évidence, en Roumanie notamment, des casques effectivement surmontés d'oiseaux métalliques dont les ailes battaient quand le combattant courait et montait à l'assaut, et là encore, bon, rien à voir avec le casque de Vercingétorix, avec ses ailes, ou même le casque d'Astérix, qui était en fait un type de casque complètement anachronique qui existait 1000 ans avant Jules César. Donc c'est un anachronisme, tout simplement.
Mmh. Ouais, et puis alors, des mots de vocabulaire aussi. Les Gaulois nous ont transmis 200 mots de vocabulaire. Vous en relevez quelques-uns. Vous en avez en tête de ces mots que nous employons tous les jours et que les Gaulois nous ont laissés.
Alors, sans doute bien plus que ça, bien plus de mots, notamment dans les toponymes, les noms de villes, François le disait tout à l'heure. Alors on pourrait citer, comme toujours, des mots liés à l'agriculture, à la forêt, etc. Moi j'en préfère un qui est celui d'ambassadeur, qui est pourtant un mot très moderne et très d'actualité actuellement. Et ambassadeur vient d'Ambactus. Effectivement, c'est un terme, ce sont les délégués gaulois que rencontre César. Donc, c'est un mot qui suffit à lui seul à résumer tout, finalement, la complexité de ces sociétés gauloises. Mmh. Et puis, ce legs qui est assez important tout de même, y compris culturel, pas uniquement
Très bien. Eh bien, je vous remercie tous les deux. Il y a donc cette exposition à aller visiter à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Gaulois, une expo renversante. On écoute tout de suite Bachung et puis après, c'est la chronique de Philippe Hénarejos.